Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.
Et on aborde ce quart d'heure des spécialistes à l'heure où la Belgique et le Panama font toujours match nul, 0 partout. Pour l'instant, on arrive gentiment mais sûrement à la 40e minute de jeu dans cette rencontre du groupe G. Quant à nous, on va accueillir Sébastien Roth pour le quart d'heure des spécialistes. Sébastien Roth, bonjour.
Bonjour.
On va donc évoquer avec vous à la fois l'équipe de Suisse et puis on va bien sûr parler de ce groupe G emmené par la Belgique et l'Angleterre. Mais avant cela, on va bien sûr vous dresser votre portrait. C'est Jérôme Moutet qui s'y colle.
Sébastien Roth, vous êtes né le 1er avril 1978 à Genève et ce n'est pas un hasard si vous avez vu le jour un 1er avril, mais on verra ça plus tard. Vous avez donc 40 ans et vous êtes jeune, car oui, 40 ans, c'est jeune, merde! Vous commencez votre carrière au SR de Léman en 1994. Et là, quand on parle des SR de Léman, on commence à comprendre le lien avec le 1er avril. Je rappelle pour les profanes que les SR de Léman, c'est un club de foot qui a milité en Ligue 1 il y a bien longtemps, mais que dorénavant, c'est un club de potes qui préfèrent jouer à la pétanque en sirotant des pastis. Vous êtes dès le début un gardien de talent. Et en 97, vous signez au FC Soleur. Alors pour les profanes, le FC Soleur, c'est un club de foot qui a eu un très bon niveau, mais où dorénavant, ils préfèrent jouer au curling en sirotant des tequila. Mais Sébastien Roth, en l'an 2000, vous signez un contrat au Servette FC. Enfin, un gardien de talent pareil, enfin, il signe dans un grand club. Et affirmer que Servette est un grand club, c'est là que l'on se rappelle que vous êtes né le 1er avril. En 2005, le Servette FC fait faillite. Et là, vous avez une décision de fou, une décision de malade. Vous décidez de vous engager envers le FC Lorient. Vous êtes le seul habitant de l'arc jurassien qui part en France chercher du travail. Alors qu'en général, c'est le contraire, les files de voitures frontalières au loc le matin et soir en témoignent. Mais en 2006, vous revenez en Suisse à Yverdon Sport avant de vous retrouver au... chômage. Mais rien à voir avec une défense de fer devant vous et grâce à laquelle vous n'aviez rien à faire. Non, vous vous retrouvez au vrai chômage et vous jouerez pour la suite dans des clubs de Challenge League comme Chafouz ou Le Mont-sur-Lausanne. Vous terminerez votre carrière à Étoile Carouge, vous fêterez une promotion. Puis, vous deviendrez entraîneur des gardiens de ce même club et comme Zaya, vous êtes un bon entraîneur et du coup, vous entraînez aussi les gardiens du FC Versois. Ah, que l'on est bien Versois. Mais en parallèle de tout cela, vous êtes sélectionné dans toutes les équipes nationales juniors et vous participez au championnat d'Europe M16 en Irlande. Vous serez même le gardien des M21. Et là, la porte est grande ouverte pour être le gardien de l'équipe suisse de foot. Oui, vous allez le faire. Évidemment, c'est clair et net. Clarinette. D'ailleurs, vous êtes retenu par Kubi Kuhn comme troisième gardien pour l'Euro 2004. Devant vous, il n'y a plus que Jörg Stiel, crapule de Suisse allemand, et Pascal Tuberbuller, crapule de Suisse allemand. L'affaire devient belle quand Jörg Stiel se retire. Vous grimpez gardien numéro 2 de la sélection. Oui, ça va le faire. C'est génial. Jusqu'au jour où Fabio Coltorti, une crapule d'Espagnol, vous pique la place et vous ne serez pas retenu pour la Coupe du Monde 2006. Alors Sébastien Roth, on se souviendra de vous en étant un gardien de talent, mais aussi comme étant un joueur qui a été sélectionné pour un euro en étant passé bien avant par l'ISR de Léman. Et ça, c'est bien ce qui prouve que les miracles existent. Mais Sébastien Roth, on se souviendra de vous également comme étant une des rares personnes à être née à Genève et qui est plus connue pour ses talents que pour sa grande gueule. Et pour ça, on vous dit bravo et merci Sébastien.
Alors on vous retrouve Sébastien Roth, un portrait qui vous convient ?
Ouais, à part que je ne suis pas né à Genève, mais oui.
D'accord. On va
je suis né à Boncourt. Je suis né à Boncourt.
Ah bah tout près de chez nous.
Ben oui, bien sûr.
Alors on va bien sûr revenir avec vous Sébastien Roth, le Jurassien donc, on va revenir avec vous bien sûr sur les épopées de l'équipe de Suisse du côté de la Russie avec ce match hier. Déjà, comment vous l'avez vécu cette partie nulle, un partout contre le Brésil?
Ben, début du match, je me suis quand même fait un peu de soucis parce que les Brésiliens avaient quand même pris le dessus jusqu'à ce qu'ils mettent le but. Et là, je me suis dit que ça pouvait devenir compliqué, mais j'ai trouvé une très belle réaction de l'équipe nationale avec une équipe qui a vraiment essayé de jouer au football et qui s'en est très bien sortie, qui a fait une très belle performance hier.
On a posé une question sur nos réseaux sociaux par rapport au but de l'équipe de Suisse, justement. D'après vous, y avait-il faute de Zuber au moment d'armer cette tête?
Alors, il y a une légère poussette, mais je pense que c'est des contacts dans le foot qu'on voit peut-être 10 fois par match. Donc, ça peut siffler comme ça peut ne pas se siffler.
Vous êtes donc un ancien gardien de but, un ex-gardien des SR de Léman, on l'a dit, de Servette également, de l'élite du football suisse, de l'équipe nationale également. Un petit mot, Sébastien Roth, de la performance, grosse performance de Yann Sommer.
Bah oui, Yann hier a fait un match solide. Il n'a pas eu non plus 25 arrêts à faire comme dans certains matchs, mais il a été très décisif lors des moments importants du match et il a dégagé une sérénité qui fera du bien à toute la défense helvétique.
Oui, notamment ces deux arrêts déterminants, hein. Déviation du bout des doigts, première mi-temps, sur le tir de Paulinho, intervention en deuxième après une tête de Firmino. C'est des arrêts de classe mondiale. On peut dire aujourd'hui que la Suisse dispose d'un des meilleurs gardiens de cette compétition.
La Suisse dispose d'un, je dirais, d'un très bon gardien, même plusieurs, parce que Bürki est également un gardien de grande qualité. Après, est-ce que c'est un des tout meilleurs de la compétition? C'est justement le tournoi qui va peut-être répondre à cette question-là.
Et Yann Sommer, c'est aussi une attitude. Il y a beaucoup de joueurs qui disent qu'ils dégagent un sentiment de sécurité. C'est quelque chose que vous partagez, Sébastien Roth?
Oui, Yann est quelqu'un de très calme dans ses buts. Et justement, il apporte justement cette sérénité qui peut faire du bien justement à une défense suisse qui est également très jeune dans l'axe central. Donc ça peut être bénéfique pour ce groupe.
Vous l'avez également évoqué tout à l'heure. Quelle importance est-ce que la performance hier de joueurs qui ont été très bons, hein, comme Akanji et Cher, quelle importance de cette performance-là dans celle de Yann Sommer?
Je pense que c'est un tout. Hein, une équipe, vous avez rarement... Un joueur qui sort du lot tout seul, je veux dire, c'est vraiment... surtout contre les équipes comme le Brésil. Hein. Après, si vous jouez une équipe un peu plus faible, ça va peut-être plus se voir un joueur qui sort du lot. Mais là, c'était vraiment pour moi une performance d'équipe. Tout le monde a vraiment tiré à la même corde, même si certains joueurs ont peut-être été en dessous d'autres. Mais dans la combativité, tout le monde était à la même enseigne.
Sébastien Roth, vous qui avez longtemps été gardien de l'élite nationale, concrètement, qu'est-ce que ça change d'avoir des joueurs de grande qualité qui sont vraiment bien dans leur match, comme Akanji, comme Cher hier, quand on est gardien de but fondamentalement?
Ça permet également au gardien de se concentrer avant tout sur son travail et peut-être moins perdre d'énergie dans le replacement des joueurs, ou qui est quand même le rôle du gardien vu que c'est lui qui voit tout le jeu. Donc ça fait partie aussi de ce rôle-là. Mais ça permet peut-être à Yann, pour le match d'hier, d'être un peu plus concentré sur ses performances individuelles.
Alors, on l'a dit hier, il n'y avait pas forcément beaucoup de pression sur l'équipe de la Suisse, si ce n'est qu'on commence la Coupe du Monde. Il n'y avait pas forcément d'attente, c'est ce que je veux dire, dans le résultat de l'équipe nationale contre le Brésil. Par contre, contre le Costa Rica, contre la Serbie, c'est deux équipes plutôt bien organisées. Chaque but encaissé, forcément, pour être lourde de conséquences. Est-ce que c'est une casquette qui est difficile à porter, ça, pour un gardien et pour Yann Sommer en particulier?
Oui, de toute façon, le poste de gardien de but est assez cruel, hein. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde parle de Yann qui a fait des points finalement pour l'équipe nationale en faisant des arrêts déterminants. Et le prochain match, s'il prend un but de casquette, tout le monde va le montrer du doigt également. Donc, c'est aussi ce qui fait la beauté de ce poste-là, hein. Donc, c'est, comme on dit, on a un peu des, les gardiens, nous sommes un peu des fous. Donc, c'est aussi pour ça qu'on aime bien se faire taper dessus, comme on dit.
Sébastien Roth, on va désormais s'intéresser au groupe G, hein, le premier match où on va gentiment mais sûrement arriver à la mi-temps de ce Belgique-Panama. Et ce score surprenant, toujours 0 partout, hein, entre les deux formations, alors qu'il reste 10 secondes précisément dans le temps additionnel de la première période. On a deux sérieux outsiders des joutes mondiales habituelles, c'est comme ça qu'on les qualifie, en tout cas l'Angleterre et la Belgique dans ce groupe G. Quelle chance, vous Sébastien Roth, est-ce que vous accordez à l'Angleterre?
L'Angleterre, je dirais, cette année, on en a peu entendu parler, contrairement à peut-être d'autres compétitions où on les mettait clairement dans les favoris. Je pense que l'Angleterre peut être une surprise, justement, un outsider qu'il faut pas prendre à la légère. Tout dépendra, justement, de ce premier match de ce soir. Si l'Angleterre arrive à bien négocier contre la Tunisie, qui n'est pas un match facile, sur le papier, à mon avis, je pense que les Anglais peuvent en surprendre plus d'un lors de cette compétition.
Alors, vous l'avez dit, hein, les Anglais qui ont globalement plutôt déçu, hein, dans les grandes compétitions, Euro, Coupe du Monde dernière, qu'est-ce qui a changé dans cette équipe d'Angleterre depuis les dernières échéances?
Vous voyez, on voit déjà aussi qu'il y a beaucoup de joueurs anglais décomplexés qui jouaient peut-être dans des clubs un peu moins comme Leicester, où on voit Jimmy Vardy, des Kane qui sont offensivement très forts. Donc l'équipe d'Angleterre offensivement est très forte et je pense qu'ils ont une équipe un peu plus équilibrée que par le passé. Les joueurs anglais jouent aussi plus régulièrement dans leur club, contrairement à peut-être d'autres équipes d'Angleterre par le passé où c'était vraiment à part quelques stars, les autres joueurs ne jouaient pas forcément régulièrement dans leur club. La faute aussi à un championnat anglais qui est constitué de beaucoup de joueurs étrangers.
On met souvent également la Belgique dans le panier des désormais outsiders favoris, hein, toujours un petit peu entre les deux. Est-ce que d'après vous, les Diables Rouges sont aujourd'hui arrivés à maturité?
Je pense qu'avec cette équipe-là, ils sont à maturité. Après, entre être à maturité et pouvoir assumer des résultats selon les attentes de tout un pays comme la Belgique, parce que c'est vrai que la Belgique a connu des heures quand même assez riche dans le football par le passé. Aujourd'hui, des joueurs de grande, grande qualité dans cet effectif, mais il manque encore les résultats aujourd'hui pour confirmer ça.
Oui, pour l'instant, il manque aussi le premier résultat, même puisqu'il y a 0-0 à la mi-temps entre la Belgique et le Panama, mi-temps qui vient de se terminer en Russie. Aujourd'hui, Sébastien Roth, est-ce qu'on peut mettre la Belgique et l'Angleterre au même titre que l'Allemagne, la France, l'Espagne ou le Brésil dans le même panier, finalement, à savoir en tant que grand favori de la compétition? Est-ce que vous voyez, en d'autres mots, la Belgique, par exemple, soulever la Coupe du Monde?
Alors moi, personnellement, non. Moi, je ne les mets pas dans le panier des grands favoris. Je les mets plutôt dans le second chapeau des outsiders capables de jouer les troubles faites.
Et si vous a téléphoné aujourd'hui, Sébastien Roth, c'est également pour profiter de vos connaissances, vous qui étiez un ancien gardien de but. Alors, on sait qu'en Belgique, il y a Thibaut Courtois, qui est un des meilleurs gardiens du monde. Par contre, en Angleterre, il y a Jordan Pickford qui est dans les buts. Est-ce qu'on peut gagner la Coupe du Monde avec Jordan Pickford dans la cage?
Bah écoutez, tout le monde me dit que l'Espagne peut gagner avec De Gea quand on voit le premier but encaissé par De Gea. Après, vous savez, sur un tournoi, effectivement, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, sur le papier, d'avoir un énorme gardien confirmé qu'un gardien finalement inconnu pour les Anglais. Mais c'est vrai que Thibaut Courtois pour la Belgique est quelqu'un d'assez impressionnant. Le gardien anglais, on le connaît peu, mais peut-être ça peut être aussi une surprise du tournoi.
Vous avez vous-même côtoyé Pascal Tsouberbulès, un petit peu, on va tirer un parallèle, un cas de figure similaire, ou en tout cas qui se ressemble. Hein. Tsouberbulès était sous le feu des projecteurs avant certaines compétitions, lui qu'on critiquait pour certaines bourdes. Là, c'est également pareil dans la presse, en tout cas anglaise. On pointe souvent du doigt Jordan Pickford comme le maillon faible, ou comme en tout cas l'élément qui va être déterminant pour la bonne ou le bon ou le mauvais parcours de l'équipe d'Angleterre. En tant que gardien, vous qui avez encore une fois côtoyé Pascal Tsouberbulès, dans quel état d'esprit est-ce qu'on se trouve en une si grande compétition quand on est pareillement sous le feu des projecteurs?
Bon, je pense que c'est à ce niveau-là, les joueurs et les gardiens sont vaccinés, comme on dit. Hein. La pression dans le championnat anglais, vous l'avez tous les jours. Hein. C'est un pays qui vit foot tous les jours dans la presse. Vous avez des articles sur le foot, donc il n'y a pas une journée où vous êtes tranquille. Donc c'est aussi une habitude. Après, je pense qu'il a à cœur de démontrer toutes ses qualités et de faire taire justement toutes ces personnes qui disent le contraire.
Alors de façon plus globale maintenant, si on prend l'ensemble de la compétition, toujours au chapitre gardien de but, comment est-ce que vous réagissez au choix de Joachim Löw de donner sa confiance à Manuel Neuer malgré des mois sans compétition?
Ouais, c'est clair, c'est niveau sportif, est-ce que Neuer a déjà récupéré à 100%? Ça, c'est un point d'interrogation encore aujourd'hui. Je me pose encore la question. Après, c'est clair qu'il doit avoir... Il a une influence tellement énorme sur le jeu allemand et dans le collectif que... Si Neuer était apte à jouer, je voyais mal l'entraîneur se passer de Neuer dans les buts.
C'est avant tout son statut de capitaine ou de leader, en tout cas de l'équipe, qui fait qu'il est gardien titulaire aujourd'hui, ou son talent d'après vous?
À mon avis, les deux. parce que Neuer a quand même un peu révolutionné le poste de gardien de but en jouant très très haut par rapport aux autres gardiens de ce niveau-là. Je veux dire, c'est un gardien qui sort à 40 mètres de ses buts pour aller prendre un ballon de la tête. C'est quand même le premier défenseur, si on veut bien, ou le dernier défenseur, selon comme on le voit. Mais je pense que Neuer est un gardien hors norme niveau qualité, et je pense que niveau personne également, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup dans un groupe.
C'est le meilleur aujourd'hui, d'après vous?
Pour moi, c'est actuellement, je pense, à 100%, c'est le meilleur. Pour autant qu'il soit à 100%, effectivement.
C'est pas David De Gea, hein, d'après ce qu'on a compris tout à l'heure.
J'aime bien David De Gea aussi, mais pour dire que voilà, même un très très bon gardien, un des meilleurs gardiens du monde, peut très bien se rater sur un ballon et justement faire perdre son équipe malheureusement sur une erreur individuelle. Ça, c'est le rôle de gardien de but, et ça arrive même au meilleur. La preuve, hein, on a eu la preuve avec De Gea, qui est un des tout meilleurs gardiens du monde.
Justement, c'est typiquement dans le rôle de gardien de but. Est-ce qu'on est façonné à ce genre d'événements qui peuvent arriver quand on est gardien, à savoir rentrer dans une grande compétition, être victime d'une faute pareille?
Bah oui, et puis la grande force des meilleurs gardiens, c'est aussi c'est surtout le mental. Hein. Je veux dire, vous faites une erreur, si vous faites deux arrêts déterminants derrière, c'est là qu'on voit les grands gardiens. Un gardien moyen ou de seconde zone, va-t-on dire, va prendre un but un peu bête et risque d'aligner deux, trois boulettes juste derrière et ne pas sortir carrément de son match, en fait.
Sébastien Roth, ancien gardien de Delémont, d'Yverdon, de Servette notamment, mais surtout de l'équipe de Suisse, merci d'avoir participé au Tsar du Ballon Rond. Excellente semaine.
Merci à vous aussi.